France Info.
La deuxième vague de l'épidémie qui déferle, elle pèse sur les hôpitaux contraints de déprogrammer certaines opérations, des hôpitaux qui presque partout ont activé leur dispositif de crise. Nous sommes avec le président de France Asso Santé, organisme qui représente les patients. Bonjour Gérard Raymond.
Bonjour.
Et je salue également le professeur Djilali Annane. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine ce mardi. Professeur, quelle est la situation dans votre hôpital ?
La situation dans mon hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux actuellement, est une situation très tendue, notamment sur les services de réanimation où nous sommes complets et nous refusons des patients tous les jours.
Vous êtes contraint à l'heure actuelle déjà de refuser des patients ?
Alors effectivement, on est déjà contraint de refuser des patients. Pour l'instant, encore une fois, sur le territoire, il y a la possibilité de prendre ces patients en charge ailleurs. On essaye tous les jours de libérer des places pour prendre de nouveaux patients. Et nous avons davantage de sollicitations d'admission que de places disponibles.
Ce sont des patients qui souffrent du Covid que vous devez refuser, envoyer ailleurs ou d'autres patients ?
Ce sont à la fois des patients atteints de la Covid-19, mais aussi des patients atteints d'autres pathologies, hémorragie cérébrale par exemple, coma, intoxication, décompensation de diabète.
Ça vous inquiète ça, Gérard Raymond, vous qui défendez les patients ?
Oui, bien sûr que ça nous inquiète, mais l'inquiétude ne date pas d'aujourd'hui, elle date de plus de plusieurs mois. Et effectivement, on a toujours dit que pour nous, ce qui était important, c'est de pouvoir avoir une continuité des soins pour l'ensemble des patients atteints de pathologies chroniques. Et le professeur vient de parler des palpitations de diabète ou d'autres pathologies. Et pour nous, c'est une réelle inquiétude parce que nous pensons, et on l'a déjà vu dans la première vague, que l'état de santé général des autres pathologies, des personnes atteintes d'autres pathologies, s'est détérioré. Et nous avons peur que ça se détériore encore.
Vous avez des messages d'inquiétude comme ça qui vous arrivent de patients ?
Oui, bien entendu, quotidiennement. On a des messages sur notre service Santé Info Droit et par la remontée aussi des associations de patients ou d'usagers de la santé. Nous avons ces remontées d'une grande inquiétude de l'ensemble de nos concitoyens. Mais je pense que c'est tout à fait normal quand on voit effectivement aujourd'hui des annonces de plus en plus inquiétantes de l'ensemble de nos pouvoirs publics et on ne sait pas du tout comment on va pouvoir gérer cet afflux de nouveaux patients à l'hôpital.
Professeur Annane, quelles mesures avez-vous pris pour faire de la place ?
Bah, écoutez, d'abord, pour rassurer tout le monde, les soignants que nous sommes n'avons absolument pas l'intention de choisir telle ou telle pathologie et vraiment nous voulons soigner tout le monde, quelle que soit la pathologie. Et ça, c'est important de le dire. Il ne faut pas refaire ce que nous avions fait en mars, c'est-à-dire une déprogrammation massive et complète des soins de tous les autres patients. Ça ne doit pas être reproduit cette fois-ci. Et je pense que les médecins et soignants que nous sommes, ils veilleront.
Et est-ce que vous avez les moyens de le faire, justement ?
Écoutez, les moyens de le faire, ils vont être insuffisants. C'est quasi certain maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas prendre en charge les patients. Ça veut dire qu'il va falloir au quotidien innover, inventer, trouver des systèmes D, assurer en tout état de cause que chaque patient puisse bénéficier des soins dont il a besoin. Ça va être difficile, c'est déjà difficile aujourd'hui. Et les soignants que nous sommes sont très mobilisés auprès de nos patients. Et véritablement, on fera tout ce qu'on peut déjà. Les soignants ont reporté leurs congés, font des heures supplémentaires, ne comptent plus les heures. Les week-ends sont devenus des jours de semaine, les nuits sont devenues des journées. Et donc cette mobilisation est importante pour permettre de faire face effectivement au manque de renforts et au manque de moyens, mais pour garantir et essayer de garantir le plus longtemps possible une qualité, une sécurité des soins à tous nos patients.
Djilali Annane, justement, comment vous parlez de système D, comment ça se traduit dans votre hôpital ?
Ben écoutez, dans mon hôpital, ça va se traduire par exemple par essayer de faire sortir plutôt un patient de réanimation en essayant de continuer sa surveillance dans l'unité de surveillance continue ou dans le service de médecine, pour libérer plutôt un lit pour prendre un nouveau patient. Ça va être aussi de répartir différemment la tâche de soins entre les différents soignants, parfois accepter de prendre en charge plus de patients pour un soignant donné qu'on ne le ferait en temps normal. Bon, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment des petits systèmes D que chacun d'entre nous essayons de trouver tous les jours.
Gérard Raymond, vous avez début septembre devant les sénateurs exposé les conséquences des mesures sanitaires pour les personnes les plus fragiles. Il y a eu des patients qui n'ont pas pu être soignés à temps.
Oui, bien sûr. Et ça se confirme aujourd'hui, particulièrement des personnes atteintes de cancer, mais bien d'autres pathologies. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est éviter qu'il y ait un afflux de patients à l'hôpital. Et donc, comme nous sommes revenus dans des mesures d'urgence sanitaire, il faut qu'on réapplique les mesures d'urgence sanitaire qu'on avait prises au printemps, c'est-à-dire rétablir les mesures dérogatoires concernant la téléconsultation, favoriser les contacts entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes libéraux et les patients qui souffrent de pathologies chroniques, mettre en place des consultations à distance, des plateformes de suivi à distance. Cela a été fait, il faut les réactiver et les faciliter. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est protéger les personnes les plus fragiles, particulièrement dans le travail. Le Haut Conseil de Santé publique a été saisi. Nous souhaitons être, évidemment, aussi être auditionnés par le Haut Conseil de Santé publique parce que nous voulons qu'ils prennent des décisions concernant les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles, y compris les proches de ces personnes-là, pour qu'on reconnaisse le droit à tous de pouvoir être protégés. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'on se protège d'une façon volontaire et volontariste dans un souci de solidarité pour nos prochains, mais aussi de solidarité vis-à-vis des professionnels de santé qui sont à l'hôpital.
Professeur Annan, est-ce que ces solutions qu'évoque Gérard Raymond peuvent vous soulager? Est-ce que vous les appelez de vos voeux?
Oui, tout à fait. Elles sont très importantes. Il faut développer les alternatives à l'hospitalisation. Quand l'hospitalisation est indispensable, il faut développer les systèmes qui permettent de la raccourcir le plus possible en s'appuyant sur les collègues libéraux, en s'appuyant sur les structures d'hospitalisation à domicile, en s'appuyant sur les communautés professionnelles de territoire. Et il y a les moyens en France de développer l'alternative à l'hospitalisation et de permettre de garantir la même qualité de soins à tout le monde.
Mais est-ce qu'on peut le faire là, à l'heure actuelle, parce qu'il y a urgence?
Oui, il y a urgence. On aurait pu anticiper cette situation et réactiver plus tôt les systèmes en place, mais mieux vaut tard que jamais.
Et on reste ensemble, vous restez avec nous, professeur Annan, ainsi que Gérard Raymond. On poursuit cette discussion dans quelques secondes.
France Info, midi 14h, Marie Bernardo.
Le temps du fil info d'Armand Perrouloga, 13h50.
Il y aura un nouveau tour de vis pour limiter la propagation du coronavirus en France. Des arbitrages sont en cours à l'Élysée. Un premier conseil de défense sanitaire a eu lieu ce matin. Un second est prévu demain. Et cet après-midi, le Premier ministre consultera les partenaires sociaux et les chefs de parti. Emmanuel Macron envisage de s'exprimer dès demain pour annoncer ses nouvelles mesures sanitaires. Plusieurs scénarios sont sur la table, notamment un couvre-feu avancé à 19h, un confinement le week-end ou encore des reconfinements dans les zones où le virus circule activement. La colère en Italie suite aux nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays contre la fermeture des bars et restaurants dès 18h et contre la fermeture pendant un mois des théâtres, cinémas et salles de sport. Il y a eu des heurts à Milan et Turin. Un peu moins de chômeurs en France au troisième trimestre, c'est-à-dire de juillet à septembre. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 11,5% par rapport au trimestre précédent. Ça concerne les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucun travail. La justice administrative valide la fermeture temporaire de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Fermeture pour 6 mois ordonnée par le ministère de l'Intérieur. Les autorités accusent le responsable de cette mosquée d'avoir relayé des propos qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty il y a 11 jours. Et puis un ressortissant américain enlevé au Niger. Le rapt a eu lieu à 400 km à l'est de Niamey, près de la frontière avec le Nigeria. Pas de revendication pour l'instant.
France Info.
Et on évoquait avec le président de France Asso Santé, Gérard Raymond, et avec le professeur Djilali Annane du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. On évoquait ensemble à l'instant, messieurs, les alternatives à l'hospitalisation. En attendant, et comme on le disait, il y a urgence. Professeur Annane, est-ce que les mesures que l'on attend, ce durcissement des mesures sanitaires, vous l'appelez aussi de vos voeux? Est-ce que c'est oui. ça qui va servir à vous soulager dans les semaines qui viennent?
C'est-à-dire qu'il faut, sur le très court terme, de façon très urgente, trouver le moyen de casser la deuxième vague. Et la seule mesure sanitaire qui a démontré son efficacité et une efficacité radicale, c'est le confinement. Donc je crois que malgré tous les impacts négatifs potentiels, le confinement doit être restauré le plus vite possible, mais pas de la même façon qu'en mars.
C'est-à-dire
il faut tirer les leçons de mars. Il y a un certain nombre d'activités socioculturelles que l'on peut maintenir. Par exemple, les théâtres et les cinémas ne sont pas des lieux de contamination. On y est assis, masqué, on parle plat, on peut réguler les flux, on peut y aller sur réservation. Par exemple, à l'école, il ne faut pas fermer les écoles. Et il faut permettre aux enfants, notamment des milieux les plus précaires, qui ont pâti de la fermeture des écoles, de pouvoir continuer d'y aller, comme c'était le cas pour les enfants des soignants. Et le télétravail, bien évidemment, doit être généralisé, et on doit s'appuyer sur tous les secteurs économiques qui ont aussi fleuri pendant le confinement, notamment dans le domaine du numérique, de la vente à distance, etc. Donc je crois qu'il faut creuser et préparer un confinement qui permettra de maintenir des activités socioculturelles et des activités économiques. Et enfin et surtout, qui permettra de maintenir et de garantir la poursuite de la prise en charge des patients qui ont des pathologies chroniques, qui ont d'autres maladies, cancers, etc., pour éviter un prix indirect de la Covid-19 pour ces patients-là, qu'on mesure maintenant des suites de la première vague.
C'est ce prix que vous redoutez, Gérard Raymond. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a tiré les leçons de cette première vague du point de vue de l'accueil des patients, justement?
Malheureusement, on peut constater qu'on n'a pas tiré les leçons de cette première vague parce que on a voulu un peu se détendre. Rentrer dans une certaine insouciance et la deuxième vague nous a rattrapés. Ce que nous souhaitons, c'est que nous apportions des réponses acceptables pour tous, respectueuses de l'ensemble des citoyens, et le professeur vient de le dire, mais ces réponses doivent être le fruit d'un débat démocratique et d'une participation de l'ensemble des citoyens, et particulièrement des représentants des usagers de la santé. Nous avons réclamé depuis le début cette participation à les décisions collectives qui puissent permettre de chacun d'entre nous de pouvoir y adhérer et puis aussi participer à cette responsabilité de l'ensemble et solidaire pour protéger l'ensemble de nos concitoyens et protéger notre système de santé.
Vous n'avez pas été consulté, Gérard?
Et on n'a pas été suffisamment consulté. Malheureusement, on n'a pas été entendu. On voit bien que ces mesures arrivent d'une façon descendante, parfois un peu autoritaire, et qu'elles sont contestées et contestables pour certains d'entre nous. Donc il y a une nécessité effectivement de faire comprendre, d'éduquer et de faire participer l'ensemble des citoyens. Je voudrais aussi ajouter que le professeur l'a dit, il y a des applications numériques et aujourd'hui cette application Tous Anti-Covid devrait être multipliée par 10 pour que effectivement on puisse avoir un suivi, un traçage et un suivi des personnes à risque ou tout au moins des personnes contaminées. Donc la difficulté aujourd'hui de cette deuxième vague, c'est qu'on n'a pas su entre les deux véritablement réfléchir à mettre en place des mesures qui pourraient nous permettre de l'affronter, y compris dans la mobilisation des professionnels de santé du premier recours. Il faut que, effectivement, nos patients, nos usagers de la santé puissent continuer à avoir des soins avec les médecins généralistes, Il faut aussi permettre l'accès aux soins des primo-consultations pour pouvoir avoir des conseils ou des consultations lorsque l'on a des soucis ou des inquiétudes sur son état de santé. Et donc, ces mesures qui avaient été prises en urgence n'ont pas été consolidées pendant cette période, on dira, de trêve estivale. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on les remette en place assez rapidement.
Le professeur Annan, est-ce qu'on n'a pas assez consulté, effectivement, les patients ?
Consulter d'une façon générale les acteurs du terrain. Mais moi, dans les attentes sur les communications prochaines du gouvernement, il y en a une qui me paraît importante. Nous devons enfin avoir un plan national de lutte contre la pandémie qui n'est pas avec une vision à au minimum 6 mois, voire 1 an. Et donc, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a traité la première vague, puis ensuite on s'est focalisé sur le déconfinement. Et puis ensuite, on a oublié la pandémie. Et on n'a pas préparé le court, le moyen, le long terme. Et j'ai l'impression qu'on ne le fait toujours pas. Il est urgent d'avoir une vision à 6 mois, 1 an, qui intègre à la fois les actions hyper urgentes à prendre dans les prochains jours, mais aussi les actions qui devront être prises dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et amener tout le monde à converger, consulter suffisamment pour que tout le monde adhère à ce plan national, mais c'est ça dont on manque aujourd'hui. On n'a pas de vision sur ce qui va se passer dans les prochains mois, et ça, c'est horrible.
Et on a entendu votre inquiétude, vos inquiétudes, professeur Djilali Annan, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je vous remercie. Merci à vous également, Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Merci à tous les deux.